de suite à 14h49 pour la dernière partie de La Marche des Sciences. Eh bien, nous continuons de voyager. Restez avec nous, André Braque et Alexandre Ménez, parce que nous allons voyager dans l'univers et les étoiles à travers une carte exceptionnelle qui vient d'être analysée. Bonjour Jean-Marc Bonnet-Bideau.
Bonjour.
Vous venez de nous rejoindre et vous êtes astrophysicien au CEA et vous avez eu cette formidable occasion, vous allez nous en parler, de travailler sur ce qui semble être ou ce qui est la plus vieille carte du ciel connue à ce jour et qui a été dessinée en Chine au 7e siècle. Alors c'est d'abord l'histoire d'un document. Si je dis oublié, volé, redécouvert,
Oui, c'est tout à la fois ça. Je pense que le document est déjà extraordinaire par l'histoire, son histoire, la façon dont il a été fait effectivement aux alentours du 7e siècle, la façon dont il a été conservé par miracle dans un monastère bouddhique. On est dans la partie est, ouest de la Chine, dans le désert de Gobi, un climat extrêmement aride. Et par chance, les gens qui occupaient ce monastère, sans doute envahis par des invasions venant de l'ouest, ont fermé le monastère en l'an 1000 et ont, par miracle pour nous, enfermé tous les documents qu'ils avaient dans une petite grotte secrète. Et cette grotte n'a été redécouverte qu'en 1900, aux alentours de 1900, par hasard, en tapant sur ce monastère est un monastère troglodyte. En fait, ce sont des caves qui ont été creusées dans la roche. Et une de ces caves, il y a un mur sonné creux. Et là, qu'est-ce qu'on découvre ? 40 000 manuscrits. 40 000 manuscrits qui sont donc datés depuis le début du monastère, entre 400 jusqu'à l'an 1000 où il a été fermé. Donc on est complètement sûr de la datation des manuscrits. Et ces manuscrits, en fait, maintenant c'est une étude complète puisqu'elle comporte souvent des textes religieux sur le bouddhisme, mais en des langues absolument extravagantes. Un certain nombre dont on n'a plus de traces que par ces manuscrits-là. Donc ça a créé une espèce d'étude parmi les sinologues et au-delà des sinologues, puisque ces textes sont parmi les plus anciens pour un certain nombre.
Mais alors des documents qui avaient été éparpillés, dont certains voyageurs se sont emparés, finalement, ils ne sont pas aujourd'hui tous les 40 000 rassemblés dans un même lieu.
C'est même l'inverse, parce qu'effectivement, on est en début 1900, et là, il y a des explorateurs qui cherchent dans tous les coins ce qu'on a appelé les cités englouties du Taklamakan. Taklamakan, c'est un désert de sable, et on sait qu'il y a des cités qui ont été érigées bien avant et elles ont disparu sous les sables. Ils cherchent ça, ils entendent parler de ce monastère, de cette cache aux manuscrits et ils affluent. Et l'un d'eux était Orelstein, qui était un Hongrois qui était naturalisé anglais. Et lui, en fait, il emporte des caisses et des caisses de documents. Et ces documents sont expédiés à d'autres chameaux, évidemment, vous imaginez, effectivement, de Gobi à Londres. Et ça arrive un jour au British Museum. Et en fait,
on les oublie ?
Alors, on les oublie. Non, on les oublie pas, parce qu'en fait, on découvre tout à fait dès le début qu'ils sont très importants. Mais pour la plupart, ce sont des textes religieux, non des textes pour des gens qui font de l'histoire des religions, qui font de l'histoire des idées. Enfin bon, et pas du tout pour les astronomes. Et là, dans cette corps de 40 000 manuscrits, il y en a deux qui concernent l'astronomie. Enfin, il y avait aussi des almanachs et des calendriers, mais deux qui concernent l'astronomie d'observation. Et donc, la carte de Dunhuang, qu'on appelle de Dunhuang, puisque cet endroit s'appelle Dunhuang en Chine. Et celle-ci, elle est totalement oubliée, parce que finalement, les sinologues et les philosophes des religions ne savent pas quoi en tirer de cette carte.
Sauf Joseph Needham, le spécialiste de l'histoire de la Chine, spécialiste britannique, un des premiers, qui lui la repère, mais finalement ne l'analyse pas. Alors vous, comment vous avez eu ce document? Comment vous l'avez analysé? Qu'est-ce que vous avez découvert?
Eh bien écoutez, moi je connaissais par Needham effectivement l'existence du document. J'étais persuadé que d'autres gens avant moi l'avaient étudié. Et un jour je contacte la British Library, puisqu'il a été transporté de la British Museum à la British Library désormais. Et ils me disent, on a trois lignes d'explication sur ce document. On a trois lignes et c'est tout.
Donc on ne connaît pas l'auteur et la datation n'est pas certaine.
Exactement. Et donc on démarre une étude qui nous a pris à peu près 5 ou 6 ans. Et par bonheur, en fait, l'intérêt de cette étude, c'est que pour une première fois, on nous a mis à disposition une version numérisée de cette carte. C'est-à-dire qu'on n'a pas été obligé de travailler sur le document lui-même, mais la copie numérisée est extrêmement plus précise puisqu'on peut faire toutes les mesures qu'on veut. Ceci dit, en revanche, la première fois que j'étais à la British Library, c'est vrai que quand on vous déroule devant les yeux ce document qui est extrêmement beau, d'une esthétique extraordinaire, vous êtes quand même un petit peu saisi d'émotion. Il a fallu quand même qu'on le voit avant pour pouvoir travailler tranquillement dessus après.
Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte ?
Bien, cette carte est une carte complète du ciel. Et c'est très important parce que c'est un document complet qui comporte toutes les constellations chinoises qui, on l'imagine, sont totalement différentes de nos constellations issues de la culture gréco-latine. Et elle est complète et très, très bien ordonnée. C'est ce qui frappait, qui avait déjà frappé un petit peu les gens, mais personne n'avait fait l'étude. Et ce qu'on a fait comme étude particulièrement sur cette carte, c'est d'essayer d'en tirer une évaluation scientifique. C'est-à-dire, on s'est demandé, est-ce qu'il y a quelque part là une représentation méthodique du ciel ? Et en fait, cette carte, quand vous la regardez, elle est faite exactement comme nous faisons les cartes aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a une partie le long de l'équateur céleste qui est distribuée comme on fait la carte des continents. C'est la carte du monde, on a ces cartes et puis on centre sur l'équateur et on a tous les continents. Sauf qu'il reste deux morceaux, hein, le nord et le sud, qu'on ne peut pas représenter comme ça. Eh bien, on fait des cartes circulaires. Et bien, cette carte comporte exactement ça. 12 panneaux le long de l'équateur, plus une carte circulaire.
Donc, dès le 7e siècle.
Dès le 7e siècle. Et alors, c'était bien de le voir comme ça, mais c'était aussi bien d'essayer de le quantifier, de l'évaluer. Et c'est là que l'étude a été faite, de repérer les coordonnées des étoiles, de les reporter donc sur des tables, et d'essayer de les tester par rapport à différentes méthodes de projection. Et on a donc la preuve, par des tests statistiques, si vous voulez, que ces étoiles sont réellement distribuées selon une méthode de projection. Alors, il faut bien se rendre compte que qui dit projection dit une opération mathématique assez complexe. Il s'agit de transformer une sphère en un plan. La sphère, c'est la sphère céleste, oui. Et le plan, c'est la carte. Eh bien, écoutez, effectivement, en Europe, on a maîtrisé ces techniques qu'au XVIe siècle. Et là, on a l'évidence que par des méthodes qui nous sont encore inconnues, puisque nous n'avons pas la trace exactement des mathématiques qui ont été utilisées, malheureusement pour nous, mais on a la trace concrète qu'un document a été fabriqué selon ces méthodes en Chine.
Donc que les Chinois avaient 9 siècles d'avance sur nous.
Sur cet aspect-là, c'est certain.
Et depuis, on connaît l'auteur.
Alors, on connaît l'auteur parce qu'on a effectivement fait une enquête policière, carrément, parce que malheureusement, le début du document était abîmé. Vous savez, le rouleau, c'est un rouleau, donc il est refermé par la partie, le début du parchemin. Et en fait, cette partie avait disparu. Donc, normalement, on a le titre, l'auteur, etc. Et en fait, on a différentes méthodes qui nous ont permis de le dater. L'un, c'est qu'on a retrouvé le nom d'un grand scientifique du début de la dynastie des Tang. On est donc au début de cette grande dynastie qui s'appelle Li Chunfeng, qui est un mathématicien, qui a revu pour l'empereur de l'époque tous les traités mathématiques, donc il est mathématicien et astronome, c'est assez intéressant. Et puis ensuite, il y a une histoire assez amusante, c'est que dans la langue chinoise, on utilise des caractères tabous, qui sont des caractères qui forment le nom de l'empereur. Et sous le règne de l'empereur et après le règne de l'empereur, pendant un certain temps, on n'a pas le droit d'utiliser ces caractères tels qu'ils sont dans le nom de l'empereur. Donc on les utilise sous une forme légèrement modifiée. Et bien on a trouvé dans ces caractères tabous une forme modifiée, une forme non modifiée, qui nous donne un intervalle de temps entre 650 et 670.
Et donc l'astronome Li Chunfeng, hein, c'est ça. Mais écoutez, on va laisser les auditeurs découvrir plus en détail le récit de ce travail que vous avez mené sur cette carte magnifique, parce qu'on peut retrouver votre article dans le magazine Pour la Science, le numéro 386 de décembre 2009. Et puis, j'avoue que la conclusion de l'article est assez, enfin, m'a fait sourire. C'est-à-dire que vous dites que concrètement, à l'époque, on se servait des cartes du ciel. C'était à disposition des princes et des souverains. Et que finalement, en un mot, si les dirigeants du monde d'aujourd'hui instruits avaient ce genre de cartes pour lire l'avenir, peut-être que les rouages de la finance et du crédit n'aurait pas suscité les derniers chaos. Voilà, merci à vous, Jean-Marc Bonnet-Bideau. Et puis, écoutez, on retrouvera toutes ces références sur notre site franceculture.com. Et c'est la fin de ce numéro de La Marche des Sciences, une émission d'Aurélie Luneau, réalisée aujourd'hui par Gilles Davidas, avec à la console Jean Frédérics. Et merci à toute l'équipe de La Marche des Sciences, Catherine Donnet, notre attachée de production, et c'est elle qui justement mettra sur le site internet toutes les informations sur le sujet du jour, sur nos invités, les références, les livres, les liens. Franceculture.com, rubrique Les Émissions, La Marche des Sciences. Vous pouvez bien sûr podcaster cette émission pendant une semaine ou la réécouter pendant un mois. Et merci aussi à Marie Jarros et Florence D'Artois, nos documentalistes de l'INA. Jeudi prochain, à préciser, à souligner, retenez surtout cette semaine, à l'occasion du sommet de Copenhague et à l'image de toutes les émissions sciences de notre chaîne et bien d'autres, nous allons traiter de la question du climat. Et dans la marche des sciences, nous nous intéresserons à l'histoire de cette discipline, la climatologie, en compagnie d'Edouard Barre et de Pierre De Félis. Et d'ici là, demain à 14h, rendez-vous avec Michel Alberganti pour Sciences Publiques.